bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloum et aujourd'hui je reçois pour vous Serge Boubda. Il est CEO et cofondateur de Duel. Duel est une fintech dont la solution permet aux commerçants de faciliter leurs paiements dans des conditions fiables et sécurisées. Duel a mis en place une plateforme digitale unique permettant à toutes les entreprises d'effectuer leurs transactions marchands via une interface unique et ainsi gagner du temps et des coûts opérationnels. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Serge sur ce podcast. Bonjour Serge.
Bonjour John.
Comment vous allez aujourd'hui?
Ça va, merci beaucoup. Et vous-même?
Ça va, merci. Je suis content et très ravi de vous avoir et discuter, échanger un tout petit peu avec vous par rapport à l'industrie fintech.
Avec plaisir, si je peux. parler de mon expérience.
Oui.
De ma propre expérience.
Exactement. C'est toute une grande joie pour moi aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'élancer un peu directement dans le but de notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus par rapport, parlez-moi de votre parcours professionnel et de ce qui vous a amené à devenir cofondateur et PDG et même chef de produit de Duel.
Bon, tout d'abord, effectivement, je ne suis plus chef de produit. J'ai commencé au début, j'étais celui qui occupait ce rôle-là, mais aujourd'hui, l'équipe est un peu plus grosse et quelqu'un s'occupe de ça. Je suis à la base un banquier. J'ai travaillé assez longtemps dans la banque d'affaires à Paris, un peu à Londres et en Asie. Et particulièrement, je m'occupais de marchés financiers où j'étais responsable d'activités de négoce sur des produits dérivés exotiques. Donc, une activité assez complexe, une activité d'ingénieur, une activité de banquier-ingénieur. Où très rapidement j'ai été formé aux bases de la gestion de risque, aux bases du métier transactionnel, aux bases de la compréhension de ce que les entreprises, nos types de clients à l'époque, ont besoin comme problème et ont besoin comme solution. Ce qui m'a amené à devenir, à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était l'envie d'aller travailler en Afrique, d'aller sur le continent et de résoudre les problèmes des entreprises du continent. Un des problèmes de base qu'on a quand on est une entreprise sur le continent africain, c'est souvent l'expérience de paiement. Comment faire que ce soit plus simple, plus sécurisé, plus rapide? Un autre problème est comment accéder au financement, comment faire également pour que ce soit moins cher, accessible à tous. Tout ça est lié à la technologie. C'est la technologie qui permet de résoudre ces points-là d'une manière simple, efficace, escalable pour les clients. Voilà comment Duel, la vision de Duel est venue de bridger la technologie avec la solution financière, fintech.
Ok, je vois, et partant de ce background où il faut trouver une solution à tout ce qui a trait à l'expérience des paiements et comment aussi accéder au financement. Mais Serge, quand même que le Cameroun où Duel a eu à commencer est quand même un marché assez complexe. Oui, intéressant et stimulant, oui, mais quand même assez complexe parce que vous apportez une solution qui est numérique et un public qui est quelque peu réticent au changement et qui favorise les transactions en espèces. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour changer les mentalités du consommateur moyen? Comment vous faites?
Je crois que en réalité, on essaye vraiment d'être customer-centric, de se focaliser sur le client. Et en réalité, je crois profondément que les clients, les gens tentent de résoudre leurs problèmes de quelque manière que ce soit. Typiquement, aujourd'hui, quand on a une mauvaise expérience de paiement, on essaye de trouver quelque chose qui rend que ce soit mieux. Le digital est de plus en plus ancré dans la mentalité du consommateur moyen au Cameroun parce qu'il aide à faire des transactions de manière plus rapide. En tout cas, pour les particuliers, avec le mobile money, notamment celui proposé par les opérateurs mobiles, qui est attaché à un numéro de téléphone, qui est accessible depuis son téléphone avec soit un code USSD, soit une appli mobile. C'est hyper facile pour le grand public. C'est devenu hyper facile de faire des transactions. Et le nombre de personnes utilisant ce moyen de paiement étant grandissant, la mentalité change un peu toute seule. Et les gens intègrent le moyen électronique comme une solution aux tracasseries de marcher avec du cash. Les entreprises, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs propositions. Une entreprise n'a pas la liberté comme nous individus d'avoir deux numéros de téléphone ou trois, de devoir faire le jonglage entre les fonds qui sont à un endroit et les fonds qui sont à un autre. Elle a besoin très rapidement d'agréger et c'est là que est notre opportunité à nous de pouvoir simplifier cette expérience de paiement là pour les entreprises. On offre quelque chose qui leur permet de recevoir n'importe quel client ayant un moyen de paiement digital et de tout agréger en un seul compte, qui est le compte Duel, et avec ces fonds-là, de pouvoir payer des fournisseurs. Donc, globalement, on simplifie l'expérience de collecter des fonds et de les utiliser pour payer un fournisseur. Donc, changer les mentalités de ce type de client-là est aisé, devient plus facile parce que leurs clients, à eux, utilisent des moyens de paiement électroniques et qu'on vient répondre à un besoin en particulier, celui de t'agréger tout au même endroit.
OK.
Donc, voilà.
Ok, je vois. Je comprends. Et cela permet de simplifier l'expérience également par rapport à cela. Mais dans votre philosophie, vous trouvez que l'adaptabilité est essentielle en Afrique. Je pense que vous trouvez que l'adaptabilité est essentielle en Afrique. Vous devez être humble même à réapprendre les choses. Mais comment est-ce que vous avez mis en œuvre cette philosophie?
On essaye d'être agile, on essaye de créer des boucles de feedback entre nos hypothèses et le retour des clients. Essayer de comprendre ce qui ne marche pas et de l'améliorer progressivement. Donc il y a beaucoup de product design, il y a beaucoup de conception produit, beaucoup de réflexion sur comment le client va comprendre une fonctionnalité dont on sait par son utilisation ou par son comportement à ce client-là qu'elle vient résoudre son problème. Eh bien, c'est parfois des questions de traduction, c'est parfois des questions de agencement, c'est parfois des questions de présentation. Et il y a donc beaucoup d'aller-retour vers le client vers les clients pour essayer vers le marché pour comprendre comment ils perçoivent une solution à un problème bien précis. La natalité aussi signifie que la manière de vendre, pareil, doit être impactée par ça. Et donc, on est, nous, très portés sur utiliser les feedbacks clients, utiliser tout concevoir autour du client.
Oui. OK. À tout concevoir autour du client. Et est-ce que lorsque vous parlez de cet aspect de la adaptabilité en Afrique, qui est essentiel, vous trouvez que le soubassement par lequel vous partez à ces jours porte assez fruit?
Oui, en tout cas, on fait des changements tout le temps. On fait progrès parce que ça. Moi, je viens du monde de la banque et effectivement. je viens du monde, d'un des mondes les plus sophistiqués, les plus compliqués de la vie. Et en même temps, les clients, tous les jours, nous font comprendre qu'eux aussi ont une façon très propre, très fine de vouloir résoudre le problème. Et on doit bridger ces deux mondes-là. On doit bridger la technique avec le design tous les jours.
En tout cas, il faut bridger la technique et le design tous les jours. Voilà, ça c'est très très important, Serge. Et l'une des choses que je me demande quand même, vous qui êtes dans l'industrie, mais aussi dans le monde francophone, le marché francophone a plusieurs réalités de nos jours. Est-ce que vous pouvez nous dire que les investisseurs de nos jours se tournent vers le marché francophone?
Oui. Après, je pense que d'une manière générale, les investisseurs regardent l'Afrique et moi j'ai un peu une approche là-dessus de quelqu'un qui a été de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai été risk manager, j'ai fait des décisions d'investissement tout le temps. Ce qui pour les investisseurs, il y a des zones qui sont un tout petit peu plus matures que d'autres quand on regarde l'Afrique, mais l'Afrique francophone fait partie du périmètre. Et parfois, lorsqu'on regarde, en tant qu'investisseur, on regarde que certaines zones se sont plus appréciées que d'autres, alors que les fondamentaux sont les mêmes. On regarde un peu plus, de manière avec un peu plus d'attention, l'autre zone, non, l'Afrique francophone, qui est un peu moins chère, qui est... où il y a des opportunités avec plus de potentiel, en tout cas, ou avec un coût d'accès qui est moins élevé. Il faut se dire aussi que les fondamentaux de l'Afrique, d'une manière générale, c'est une croissance démographique très, très forte. Donc, un continent où les consommateurs seront de plus en plus nombreux. Et les solutions fintech, les solutions de paiement, les solutions de qui touchent au consumer market, entreprise ou individu, sont les solutions d'infrastructure, sont des solutions qui permettent, qui constituent la fondation du développement. Donc, la fintech est essentielle au développement de l'Afrique. Voilà. Pour moi, en fait, une façon de réfléchir assez basique. Je regarde, non pas parce que je suis dans la fintech, mais je regarde, moi, en tant qu'investisseur, en tant que banquier, s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y aura pas de développement. Donc, le premier réflexe est de commencer par financer l'infrastructure qui permettra à d'autres boîtes demain de développer également leurs produits.
Exactement. Et tenant compte aussi de la croissance démographique qui est assez forte, comme vous l'avez souligné. Mais lorsqu'on parle du marché francophone également, est-ce que s'il faut faire une forme de lecture par rapport au temps, Aujourd'hui où nous sommes, que direz-vous qui a changé dans le marché par rapport au temps? S'il faut faire une lecture pareille, pourquoi penserez-vous que les investisseurs viennent vers le marché pour le maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qui a changé?
Je pense que aujourd'hui, ils regardent l'Afrique francophone en se disant qu'elle a du potentiel, okay, que l'écosystème est encore jeune, mm-hmm, mais qu'ils peuvent justement en entrant plus tôt mm-hmm, faire et en misant sur les bonnes teams, les bons entrepreneurs, faire des multiples, mm-hmm, parce qu'on crée une infra, parce qu'on crée une fondation, on crée les bases. C'est plus risqué, ça c'est certain, mm-hmm, mais mm-hmm, tous les écosystèmes ont commencé de la même manière. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique francophone, on a naturellement, mm-hmm, envie de se dire que c'est plus risqué, mais probablement que le potentiel aussi, le return aussi, mm-hmm, la rentabilité, mm-hmm, peut être aussi plus importante.
Oui. Non, je vois parfaitement cela. Mais si on doit rester aussi toujours sur la même boucle où nous faisons une forme d'analyse par rapport au marché, où est-ce que vous voyez le marché francophone aller à partir d'ici?
Oh, je ne sais pas à quelle vitesse. Bon, j'ai toujours une lecture un peu de valeur relative parce que c'était mon métier. Je ne sais pas à quelle vitesse le marché francophone rattrapera le marché, mm-hmm, anglophone. Mm-hmm. Maintenant, l'Afrique francophone, c'est plusieurs pays, c'est deux grandes zones essentiellement, l'Afrique centrale, mm-hmm, et l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est plusieurs pays qui sont des pays également avec une grosse démographie, avec deux zones monétaires, deux unions monétaires, mmh, et des écosystèmes qui sont, eux, en croissance. Des écosystèmes, mmh, qui ont besoin, qui vont éclore parce qu'il, mmh, y a de plus en plus de financement. Donc, il est possible que l'Afrique francophone rattrape ou aille, en tout cas, ait une croissance relative qui soit plus élevée et plus rapide que celle par rapport à, en tout cas, aux autres zones de l'Afrique. Maintenant, on, mm-hmm, ne parle pas nécessairement des mêmes niveaux. Oui. Donc, c'est des zones, de mon point de vue, c'est des zones intéressantes et avec pas beaucoup de compétition, des compétitions un peu, okay, fragmentées. C'est des zones attractives pour des risk takers. Mm-hmm.
Ok. En tout cas, c'est des zones attractives pour des risk takers. Ça, c'est très bien. Et on souhaite encore que le marché puisse s'ouvrir encore davantage. Et puis que le marché francophone puisse atteindre, rattraper ceux du côté anglophone. Vous savez, récemment, il y a un des opérateurs économiques qui me disait que aujourd'hui, lorsqu'on parle fintech, ceux qui sont dans l'industrie fintech francophone doivent se tourner vers ceux qui sont dans l'industrie fintech anglophone. C'est, mm-hmm, comme s'il y a quand même une marge qu'il faut rattraper, mais avec l'allure où avance le marché, on peut sous-entendre que l'Afrique francophone y arrive.
Oui, je ne sais pas, on ne peut pas jamais, c'est difficile de prédire le temps, mm-hmm, mais la direction est effectivement dans ce sens-là.
En tout cas, la direction est vraiment dans ce sens-là. D'accord? Merci Serge. Et, on va finir peut-être par cette question, parler un peu plus de Joule, mais aussi de votre culture d'entreprise, ce qui est une chose qui est très importante pour Joule également. À quoi ressemble votre culture et qu'est-ce qui est essentiel lorsque vous envisagez embaucher une personne?
Nous, on croit beaucoup, en fait, que notre seul vrai asset, c'est la matière grise. Ce qu'on recherche chez nous, c'est des gens qui osent et des gens qui font. Et des gens qui sont candides, c'est-à-dire qui disent quels sont leurs problèmes, quelles sont les choses qu'ils aiment, quelles sont les choses qu'ils n'aiment pas, qui sont candides envers leurs collègues. Et c'est ça dont on pense que fait marcher les grandes équipes. On est une équipe remote, dans le sens où tout le monde n'est pas dans le même bureau. Par design, il y en a qui sont... on a deux gros bureaux, un à Tunis, un à Douala. Et on essaye de se voir régulièrement. Mais le remote est un peu par construction notre les outils de messagerie instantanée, les outils de vidéo sont nos outils de travail quotidien et on essaye d'avoir au maximum de documentation sur sur ce qu'on fait, sur comment on fonctionne, sur comment on résout les problèmes, sur comment on fait avancer le business. C'est essentiel pour nous, lorsqu'on embauche quelqu'un, d'être capable de s'adapter très rapidement à ce type de fonctionnement-là, où l'écrit est très important, plus que le parler, et où être capable de faire, être capable de dire ce qu'on pense, et être capable d'être créatif, imaginatif, donc résoudre des problèmes, est très important. C'est un peu les critères qu'on recherche chez nous.
D'accord, d'accord. En tout cas, c'est très bien noté. Et c'est une très 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 bonne chose qui soit faite de votre côté, en tout cas. C'est très bien noté. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Serge. Juste peut-être une dernière question. Je pense pour aujourd'hui, on va finir par là. Et s'il y a des gens peut-être qui aimeraient entrer en contact avec vous, comment ils font? LinkedIn, peut-être?
Avec moi, LinkedIn, avec Duel, je crois qu'il y a directement sur le site où, si c'est pour typiquement des carrières, on embauche. Avec notre site carrière ou notre talent manager qui est toujours heureuse de lorsqu'elle reçoit des coups de fil ou des emails de personnes qui sont attractives.
D'accord, d'accord, c'est très bien noté. Sinon, merci encore pour cet échange.
Merci à toi, merci à vous.
Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.